Bonjour à tous, je suis le Dr. Dustin Costescu, je suis professeur agréé d'obstétrique et gynécologie à l'Université McMaster, où je travaille en tant que spécialiste de la planification familiale et de la santé sexuelle. Un groupe d'entre nous a assisté de manière virtuelle à la conférence de la Société européenne de gynécologie qui s'est déroulée ces dernières semaines. Nous souhaitions vous fournir brièvement des renseignements sur certains de nos principaux apprentissages. La Dr. Julie Thorne est avec moi en ce moment. Elle va nous parler de l'une des séances auxquelles elle a assisté et nous fera part de ses commentaires et de certaines de ses réflexions à ce sujet. Julie, comment Commencez par nous parler de vous, puis dites-nous ce que vous avez appris.
Très bien. Merci beaucoup, docteur, pour cette introduction. C'est un plaisir d'être ici pour parler de cette présentation, dont le sujet est, à mon avis, une question épineuse à laquelle nous sommes tous régulièrement confrontés dans le domaine clinique. Comme vous l'avez mentionné, je suis Julie Thorne, je suis gynécologue obstétricienne et responsable de la planification familiale pour la contraception et l'avortement au Women's College Hospital et au Mount Sinai Hospital. Je vais vous parler de la conférence du professeur Martin Burkhauser. Son thème était l'altération du pic de masse osseuse dans le cadre de la contraception hormonale. S'agit-il d'une réalité ou d'un mythe? La prémisse de cet exposé est que les données probantes et les connaissances concernant les effets des contraceptifs hormonaux sur les os sont mal comprises. Nous avons divers types de progestérone dans nos contraceptifs. Nous pouvons considérer le lévonorgestrel comme une progestérone plus classique, considérée comme plus androgénique et pouvant favoriser la croissance osseuse. Les progestatifs plus récents ont peut-être un meilleur profil métabolique dans le cadre des objectifs d'utilisation, mais ils entraînent une plus grande suppression de l'axe hypophysaire et ont une activité androgénique moindre. Des questions demeurent quant à l'utilisation des contraceptifs dans notre population de patientes. Les contraceptifs hormonaux affectent-ils l'acquisition d'un pic de masse osseuse normale? Comment cela se traduit-il concrètement pour la santé de la patiente? Le risque de fracture est-il réellement accru? Certaines études ont tenté d'examiner cette question. Voici quelques-unes des études relatives aux contraceptifs hormonaux combinés répertoriés. Une étude prospective contrôlée en 2004 a examiné 370 adolescentes âgées de 12 à 18 ans. On leur a donné une pilule combinée d'éthinylestradiol et de lévonorgestrel à faible dose ou aucun traitement hormonal. Et on a examiné leur gain de masse osseuse ou leur gain de densité minérale osseuse dans le rachis lombaire. Il y avait une différence de gain. Ainsi, celles qui prenaient les pilules hormonales combinées ont moins gagné en densité osseuse que celles qui ne suivaient aucun traitement hormonal. Ces résultats sont semblables à ceux d'autres études pour la tranche d'âge supérieure de 18 à 24 ans, ainsi qu'une autre étude sur les adolescentes. Toutes ces personnes ont pris des pilules d'éthinylestradiol à faible dose et ont été examinées sur une période de 12 à 24 mois. Ces résultats sont corroborés par une méta-analyse. Cet article a été publié tout récemment. L'objectif de l'étude était d'examiner pendant 12 mois la valeur de référence et la valeur finale de la densité minérales osseuses chez les adolescentes utilisant des contraceptifs hormonaux combinés par rapport à celles qui n'en utilisent pas. Il y a un peu d'études. Il y avait beaucoup de temps consacré à cette étude, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a moins de gains de densité minérale osseuse chez les adolescentes qui utilisaient un contraceptif hormonaux combiné. Il y a eu une revue Cochrane sur l'examen du risque de fracture qui a été publiée en 2015. Elle comprenait 7 études cas témoins et 7 études de cohorte. Aucun essai contrôlé à répartition aléatoire ne s'est penché sur la question. Les contraceptifs examinés dans l'analyse de Cochrane comprenaient les contraceptifs oraux combinés, l'acétate de médroxyprogestérone retard, qui est l'injection intramusculaire que nous connaissons tous, et puis le DIU hormonal. Seules 6 de ces études, qui portaient toutes sur les contraceptifs oraux, présentaient des données probantes de qualité modérée ou élevée. Parmi ces 6 études, une seule s'est intéressée au risque de fracture chez les jeunes femmes. Les chercheurs en ont déduit que chez les femmes plus âgées, cela ne semble pas avoir d'incidence sur le risque de fracture. Mais dans cette seule étude portant sur les jeunes femmes, y compris les adolescentes, il y avait un risque relatif de 1,2 d'une augmentation du risque de fracture. Leur conclusion est donc que les jeunes utilisatrices peuvent avoir un risque de fracture plus élevé. Toutefois, il n'y a pas vraiment eu de sous-analyse adéquate pour établir une corrélation avec un pic de masse osseuse bas et ce que cela pourrait signifier au fil du temps. Il n'y a pas de données pour les autres formes de contraceptifs hormonaux. Les contraceptifs hormonaux combinés se présentent aussi sous la forme d'un anneau ou d'un timbre contraceptif. Il y a eu une étude pilote, mais elle portait sur un échantillon très réduit et il n'y a donc pas vraiment de données fiables sur leurs effets sur la densité osseuse chez les adolescentes ou les autres utilisatrices. Et il n'y a pas encore de données sur les nouvelles formulations contraceptives qui utilisent des formes plus naturelles d'estrogène ou un estradiol naturel. On pense que ces nouveaux estrogènes peuvent entraîner une réduction de la résorption osseuse, ce qui est préférable puisque cela permet de maintenir une masse osseuse maximale, alors que précédemment, la dégradation est peut-être plus importante. Concernant d'autres données sur l'acétate de médroxyprogestérone retard, AMPR, une étude longitudinale de suivi de 3 ans a été menée auprès de femmes âgées de 16 à 33 ans sur les contraceptifs à base de progestérone seuls. Les utilisatrices d'AMPR ont perdu 3,7 % de leur densité dans leur agis lombaire et 5,3 % dans le col du fémur par rapport à la densité osseuse des participants du groupe témoin qui ne prenaient rien. La perte était plus importante chez les jeunes utilisatrices. Certaines de ces données ont conduit à l'affichage sur dépôt Provera d'une mise en garde dans un encadré noir qui figure toujours sur le produit. Lors d'études cas témoins portant sur le risque de fracture et qui utilisaient cette base de données britannique, une corrélation a été établie entre les utilisatrices à qui l'AMPR a été prescrit plus de 10 fois et les non-utilisatrices d'AMPR. Leur ajusté était de 1,54, ce qui laisse entendre qu'il pourrait y avoir une corrélation. Il y a eu aussi une revue Cochrane, mais elle n'a porté que sur 2 études cas témoins et elle a également conclu que le risque de fracture pouvait augmenter chez les utilisatrices si elles prenaient le produit pendant plus de 4 ans, mais le rapport de Cote était de 2,16. Il n'y a pas de données sur le risque de fracture associé à l'utilisation d'AMPR par des adolescentes. Il y a une étude sur le levonorgestrel sur le risque de fracture. Une corrélation a peut-être été établie entre la réduction du risque de fracture pour ou pour une utilisation à long terme. Il n'y a pas de données sur la densité osseuse ou le risque de fracture associé au désogestrel en comprimé. Aucune donnée sur le risque de fracture chez les adolescentes avec des implants contenant du désogestrel ou certaines données sur la densité osseuse qui n'ont pas été présentées dans cet exposé. Les conclusions du professeur Burkhauser sont que, dans l'ensemble, les données probantes issues d'études d'observation n'indiquent pas d'association entre l'utilisation de contraceptifs hormonaux combinés et le risque de fracture. Mais les contraceptifs hormonaux combinés à faible dose peuvent entraîner une réduction de pics de masse osseuse s'ils sont utilisés chez les adolescentes et une diminution de la masse osseuse chez les jeunes adultes. L'AMPR a effectivement un effet négatif sur la densité osseuse des femmes de tous âges. Il peut y avoir une augmentation du risque de fracture. L'AMPR entraîne une réduction du pic de masse osseuse s'il est utilisé chez les adolescentes et les jeunes adultes. Il est intéressant de noter que quelques données laissent entendre que les DIU hormonaux pourraient être associés à une diminution du risque de fracture. J'ai essayé de digérer tous ces renseignements et de voir comment ils se traduisent dans la pratique et comment j'interprète ces données. L'idée que l'utilisation de faibles doses puisse avoir un effet sur le pic d'acquisition de la masse osseuse est convaincante. Il semble en tout cas convaincant qu'il puisse y avoir une réelle corrélation. On ignore ce que cela signifie pour le risque de fracture à long terme, pour le risque d'ostéoporose. Les lignes directrices de notre entreprise recommandent aux utilisatrices d'AMPR d'accroître leur consommation de calcium et de vitamine D, de faire de l'exercice et de réduire leur consommation de cigarettes, de caféine et d'alcool afin d'optimiser la santé de leurs os. Les personnes dont la santé osseuse est optimale et qui cessent d'utiliser DepoProvera verront leur densité osseuse augmenter à nouveau. La Société canadienne de pédiatrie recommande l'utilisation de contraceptifs hormonaux combinés qui contiennent au moins 30 à 35 microgrammes d'éthylestradiol par rapport à des doses inférieures. Et cela afin de mieux prendre en charge leurs règles et leurs saignements, mais aussi en raison de cette association potentielle et de cet espoir d'optimiser leur densité et leur croissance osseuse. Il est biologiquement plausible que les pilules à progestérone seules de dernière génération puissent nuire à l'acquisition du pic de masse osseuse. Cela pourrait être lié à leur activité anti-androgénique et à la suppression de l'axe hypophysaire. On ignore encore si ces effets sont transitoires ou permanents. L'utilisation de certains estrogènes naturels mis sur le marché ou de pilules à forte dose d'estrogène pourrait être une stratégie pour atténuer ce risque. C'est une idée intéressante qui mérite d'être explorée plus en profondeur. Je me demande quelle pourrait être la possibilité biologique que le DIU de lévonorgestrel augmente la masse osseuse et comment l'expliquer. Est-ce parce que la plupart des femmes qui l'utilisent ont toujours la règle et ont donc des estrogènes en circulation? Est-ce l'activité androgénique du lévonorgestrel, même s'il a des taux généraux élevés? Pourrait-il y avoir une association entre le fait qu'elles utilisent une méthode de contraception réversible à action prolongée pendant des périodes plus longues et le fait qu'elles ont moins de grossesse? La grossesse et l'allaitement peuvent être associés à une réduction de la densité osseuse. Donc, est-il que si nous avons moins de grossesse, nous avons une meilleure densité osseuse? Il est important d'associer cette préoccupation concernant la densité osseuse au risque de grossesse non planifiée chez les adolescentes. Les grossesses non planifiées entraînent de nombreuses complications d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue sociétal, et est probablement faible et peu susceptible d'apporter les bénéfices attendus d'un contraceptif hormonal. On constate dans l'ensemble un manque de données ou la présence de faibles quantités de données de mauvaise qualité, en particulier pour les adolescentes. On se désintéresse de ce sujet et on a donc peu de données. Ce serait vraiment bien d'avoir des études plus importantes et à plus long terme. C'est un objectif vraiment difficile à réaliser.
Merci beaucoup, Dr. Thorne. Il s'agit d'une question épineuse importante dans le domaine clinique et je pense que l'un des messages clés que j'entends de votre part est d'insister sur ce point. Le risque global de fracture est faible dans cette population, en raison de la jeunesse des patientes. Mais au niveau de la population et certainement pour les... S'il y a des différences de risque, nous voulons les connaître pour adapter nos conseils. Je suis curieux de savoir comment vous utilisez les recommandations de la Société canadienne de pédiatrie dans votre propre pratique lorsque vous choisissez une méthode contraceptive pour une adolescente. Suivez-vous la règle des plus de 30 microgrammes? Avez-vous tendance à soulager les symptômes? Comment conseillez-vous vos patientes dans ce domaine?
Bonne question. Je pense vraiment qu'il faut trouver un équilibre entre le respect des lignes directrices, l'optimisation de tous les aspects de la santé tels que nous les comprenons d'un point de vue scientifique, et l'équilibre avec une approche centrée sur la patiente, ainsi que les raisons pour lesquelles je vois cette adolescente pour sa contraception ou la prise en charge de ses règles. Si une pilule hormonale combinée lui convient, qu'elle est capable de s'y conformer, si cela semble être une méthode qui pourrait répondre à ses besoins, je peux choisir cette approche avec une pilule de 30 ou 35 microgrammes. S'il s'agit d'une adolescente qui a besoin d'une contraception parce que son risque de grossesse est réel ou qu'elle a besoin d'une prise en charge de ses règles, mais qu'un contraceptif contenant des estrogènes n'est pas une solution réaliste pour elle ou n'est pas son choix, alors il faut la conseiller sur les risques de l'autre option et reconnaître que si elle peut choisir une contraception, elle doit réfléchir aux risques et aux avantages des différentes méthodes. S'il est possible pour la patiente de prendre DepoProvera et que cela lui convient, ou si elle souhaite essayer un DIU qui, comme je l'ai dit, peut ou non influer sur sa densité osseuse, alors nous le ferons. Nous savons que la Société canadienne de pédiatrie recommande également les méthodes de contraception à action prolongée en première intention, et elles ne contiennent pas d'estrogène. Il s'agit de trouver un équilibre et de réexaminer les activités de l'adolescente, de déterminer si elle a commencé à fumer ou non et d'offrir des conseils à ce sujet. Il faut également déterminer sa consommation de calcium et de vitamine D.
Ce sont d'excellents points. Dans la population adolescente, lorsque nous examinons la prise en charge des règles, cet objectif thérapeutique, je pense que cette étude me rassure un peu sur le fait que les nouvelles technologies Les implants, les DIU que nous avons tendance à conseiller sont en fait sûrs du point de vue de la santé osseuse. L'acétate de médroxyprogestérone retard est souvent le produit de comparaison. Mais même dans ces populations, le nombre de fractures quotidiennes est en fait assez faible en raison de la jeunesse de ces patientes. Il est possible qu'il s'agisse d'un transfert complet. Elles ne sont pas forcément mobiles. Encore une fois, je pense que nous utilisons les méthodes qui fonctionnent bien et qui sont acceptables pour les personnes et leurs familles. Cela est très utile. Je pense que ça ne fait que renforcer l'idée que moins c'est plus et que plus c'est plus. Qu'est-ce que nous utilisons? Je ne sais pas si nous avons résolu tous les problèmes, mais je pense que cela me conforte dans l'idée que nous ne faisons probablement pas un très mauvais travail en ce qui concerne la santé des os. Les données sont toutefois nuancées. Ce n'est pas une question facile. Si la santé osseuse est votre priorité, il existe peut-être des options un peu plus intéressantes pour vous. Dr. Thorne, merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise, vos opinions et vos connaissances avec nous aujourd'hui. Merci à ceux d'entre vous qui ont suivi ces séances. Bonne journée.